Chahut
Média.
C'est quoi un centre fédéral pour requérants d'asile? Comment y vit-on? Comment y garantit-on le respect de la dignité humaine? Ces questions, on se les est posées alors qu'on développait À la frontière, une série podcast qui interroge l'accueil des réfugiés en Suisse durant et après la Seconde Guerre. Et on s'est demandé aujourd'hui un camp pour exilés, c'est comment?
À la frontière aujourd'hui, cinquième et dernier volet d'une mini-série conçue par Chahut Média en collaboration avec la plateforme asile.ch. Bienvenue dans cet épisode, son titre, Centre fédéral pour requérants, la saturation. Entretien avec Sophie Malka, coordinatrice et rédactrice en chef d'asile.ch.
Sophie, en Suisse, les demandeurs d'asile sont placés dans des centres fédéraux pour requérants d'asile, les CFA. Alors ces lieux, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est et comment s'y déroule le quotidien?
Alors, l'instauration de ces centres fédéraux pour requérants d'asile ont été constitués dans le cadre de la restructuration de la loi sur l'asile. C'est des termes un peu complexes, mais l'idée était d'avoir les demandeurs d'asile sous la main durant la procédure d'asile. Alors, lorsque les personnes arrivent en Suisse, elles doivent déposer une demande d'asile. Et pour le temps de la procédure d'asile, jusqu'à ce qu'on statue sur leur demande de protection, ces personnes, pour une partie, vont rester et être logées dans des centres fédéraux, ces CFA. Elles vont y rester jusqu'à 140 jours, le temps que la décision tombe. Une partie seulement, parce que c'est des personnes pour lesquelles on considère que la demande est assez claire et qu'elle peut rapidement avoir une décision sur sa demande de protection. C'est aussi des personnes qui sont dans un processus lié au règlement Dublin, Schengen-Dublin. Le système Dublin, c'est un système européen lié aux accords de Schengen et Dublin qui sont entrés en vigueur en Suisse en décembre 2008 et qui dispose que une personne, une fois rentrée sur le territoire européen, c'est l'État dans lequel elle a posé le pied pour la première fois qui va devoir traiter sa demande de protection. Donc la Suisse, lorsque les personnes sont passées par un quelconque État, Dublin, peut demander à l'État en question de reprendre cette personne pour y examiner sa demande de protection. Donc la Suisse, à ce moment-là, n'examine pas la demande de protection.
Et ces États, naturellement, ce temps-ci, sont plutôt Italie, Grèce.
Évidemment, tous les pays limitrophes à l'Union européenne et aux pays membres de Schengen-Dublin sont les premiers concernés. Il y a tout un changement législatif au niveau européen qui est en train de se mettre en place dans ce sens-là, qui va durcir encore les conditions. C'est un système qui est assez problématique dans la mesure où, évidemment, les pays de premier accueil sont surchargés de demandes et des pays comme la Suisse tend et l'a fait de manière assez systématique à renvoyer les personnes vers ces pays limitrophes, y compris lorsque les capacités et le traitement des demandes d'asile sur place ne se fait pas forcément dans des conditions de respect des droits humains. Et c'est ce qui pose problème parce que des personnes ne veulent pas retourner dans un pays où, par exemple, on a beaucoup de cas actuellement en lien avec la Croatie, où les autorités croates aux frontières ont été dénoncées pour de graves violences à l'égard des personnes migrantes, que ce soit des jeunes, des enfants, des familles, etc., avec des actes de violence extrêmement problématiques. Les personnes n'ont pas envie de retourner là-bas pour y vivre. C'est assez compréhensible.
Sophie, je te posais la question de la façon dont le quotidien se déroule dans les centres fédéraux pour requérants d'asile. Qu'est-ce qu'il faut s'imaginer? C'est des conditions de détention?
Alors, c'est des grands centres qui ont été construits de très grande capacité, 300, 400 personnes y habitent. Ils sont généralement construits dans des lieux assez isolés et ils sont fermés, c'est-à-dire qu'ils sont sécurisés. Pas tout le monde peut entrer et sortir de ces centres. Il y a des fouilles pour les personnes qui y habitent à l'entrée, à chaque entrée, y compris les enfants. Donc c'est vraiment un système carcéral dans ce sens-là où il n'y a pas une liberté de mouvement. La société civile ne peut pas y entrer non plus comme elle veut. Il y a un contrôle de la part des autorités. Ces personnes sont obligées de respecter certains horaires. Elles peuvent sortir du lieu, mais elles ne peuvent pas sortir avant 9h du matin et elles doivent être de retour à 17h sous peine de sanctions qui peuvent être données qu'à la fin, lors de leur décision d'asile. Et ces sanctions sont qu'il y a un pouvoir assez disproportionné sur les personnes qui habitent là-bas. Il y a une promiscuité, ces centres sont, selon les moments, plus ou moins surchargés. Les personnes sont vraiment sous le contrôle du personnel du centre et il y a très peu de contrôle démocratique finalement de la façon dont les choses se passent dans le centre.
Alors tu évoquais justement à l'instant une possible saturation de certains de ces centres. Actuellement, les CFA sont sous pression. Pour quelles raisons ?
Alors je dirais qu'il y a deux aspects. Il y a la pression logistique où effectivement les demandes d'asile actuelles, les personnes qui arrivent en Suisse, on est plutôt dans la fourchette haute du nombre de demandes d'asile, donc on atteint le maximum au niveau des capacités des centres. Et cette pression s'est agrandie avec l'arrivée aussi des réfugiés d'Ukraine, qui a mis effectivement le système sous pression, parce que même si la procédure a été facilitée pour ces réfugiés d'Ukraine, ils doivent quand même passer un moment dans le centre, donc forcément ils occupent un peu de place. L'autre pression, elle est politique, c'est-à-dire que le processus et ces centres fédéraux prévoient justement une accélération des procédures pour une partie des gens, mais il n'y a pas assez de personnel pour traiter ces demandes, donc les gens restent plus longtemps dans les centres, donc évidemment que là aussi ça surcharge. Pour traiter davantage de demandes, il faut plus de personnel pour traiter ces demandes et de les traiter correctement. Et là, c'est encore un autre problème aussi politique. Et deuxième pression, c'est la pression politique. Il y a un pouvoir important qui est donné au personnel encadrant. Il y a une délégation de compétences qui est aussi donnée à des firmes privées telles que les Protectas et Securitas, qui ne sont pas assez bien formées. Il y a eu des violences qui ont été dénoncées par des gens. Il y a eu des plaintes pénales aussi pour maltraitance, pour violences graves qui ont été documentées, notamment par les médias. Et il n'y a pas assez de contrôle en fait, sur la façon dont les choses se passent. Il y a effectivement la Commission nationale de prévention de la torture qui est chargée d'examiner les lieux où les libertés de mouvement sont restreintes et qui intervient et qui fait des rapports chaque année sur la situation dans les centres fédéraux d'asile et qui dénonce des dérives et pour lesquelles les autorités n'ont pas encore totalement pris des mesures suffisantes. J'ajouterai encore un petit point, c'est que si on veut aller dans une solution par rapport à ces centres fédéraux, il faudrait inverser la proportion entre personnel éducatif, encadrant et personnel sécuritaire et donner beaucoup plus de liberté aux gens qui sont sur place. Je rappelle encore peut-être pour faire le lien avec les conditions qui vivent des personnes qui vivent dans ces centres, c'est qu'il y a des enfants qui habitent là-bas, l'école elle est dans les centres et les personnes ne peuvent pas travailler. C'est impossible de travailler le temps qu'on est dans ces centres fédéraux, donc il y a aussi une oisiveté. Il y a beaucoup de tentatives de suicide, il y a eu des suicides et c'est vraiment un problème au niveau de la Suisse d'avoir mis en place ce système de grands centres fédéraux et de ne pas aller dans une direction plus humaine.
Frontière aujourd'hui, une mini-série Chahut Média conçue en collaboration avec asile.ch. D'autres épisodes vous attendent sur le site de Chahut Média, chahut.ch, ou sur celui d'asile.ch.